Les mois de juillet et d'août, tels qu'imaginés par Fanny Mendelssohn dans son cycle de l'année, 12 pièces de caractère pour piano ici interprétées par Béatrice Rauch. Nous poursuivons notre visite de la maison Mendelssohn, l'exposition consacrée à Fanny, en compagnie de Myriam Leduvea.
Ici, on est dans la pièce qui s'appelle « L'été ». Et l'été est dédié au grand voyage de Fanny en Italie. Voilà, l'Italie, c'est vraiment le pays que Fanny voulait absolument visiter, le pays de ses rêves. Elle aurait presque eu l'occasion, très tôt, de s'y rendre pendant ce tout premier voyage en Suisse, dont on a parlé en bas, en 1822, puisqu'ils sont arrivés à la frontière avec l'Italie, et qu'à ce moment-là, le groupe s'est scindé en deux, ceux qui ont passé la frontière pour aller en Italie, et ceux qui ont continué direction la maison, direction l'Allemagne. Et Fanny aurait tellement, tellement voulu faire partie du groupe qui allait en Italie, mais ses parents l'ont ramenée en Allemagne et elle dit plus tard « Si j'avais été un garçon à cette époque, j'aurais fait une bêtise ». Donc c'était vraiment un rêve très très cher qu'elle avait, surtout que son frère Félix était allé en Italie dès 1830. Il avait envoyé des dessins, il avait composé là-bas, il était revenu avec tellement d'histoires à raconter. Et elle, la pauvre, elle n'y arrivait pas. Ils n'avaient pas énormément d'argent non plus dans son couple avec Wilhelm Hensel qui ne gagnait pas incroyablement bien sa vie dans les débuts, mais en 1839, enfin, l'occasion se présente d'aller en Italie. Et là, ils vont faire un petit tour d'Italie, en passant bien sûr par Rome, par Florence, par Vienne, par Naples. Ils vont aller voir le Vésuve. Et c'est un voyage absolument révélateur pour Fanny, puisque pour la première fois, elle n'est pas dans l'ombre de son frère. Elle est invitée à faire des concerts, elle est invitée à jouer. Les jeunes étudiants en musique français qui sont là, la dragouillent par-ci, par-là. Elle se sent de nouveau jeune et folle. Elle raconte dans son journal intime que, par exemple, le soir à Rome, ce petit groupe de musiciens se promène à travers la ville en chantant du bac à tue-tête et un des garçons monte sur un arbre et secoue les branches pour faire tomber les pétales de fleurs sur Fanny et elle retire son chapeau et le lendemain elle a honte d'avoir retiré son chapeau et que des gens aient pu la voir aussi échevelée. Donc voilà, c'est un voyage où Fanny va revenir avec qui va donner des ailes à Fanny, c'est comme ça que je le décrirais, et quand elle revient, elle prend la décision de publier ses œuvres sous son propre nom. Puisque jusqu'à ce moment-là, elle avait publié des œuvres à elle, mais le choix qui se présentait aux femmes, c'était de publier sous un autre nom ou publier anonymement. Et Fanny a fait les deux. Elle a publié anonymement et elle a aussi publié sous le nom de son frère, puisque son frère étant toujours en voyage, il demandait souvent à sa mère et à Fanny de s'occuper de l'édition des œuvres. Et par exemple, s'il n'y avait pas assez d'œuvres pour faire un cahier, il disait à Fanny, écoute, rassemble un petit cahier avec tes œuvres ou mes œuvres, fais un petit mélange et envoie-le à l'édition. Et donc Fanny a des fois glissé certaines de ses œuvres à elle.
J'ai cru que c'était Félix qui glissait dans les cahiers au moment de les éditions. Donc c'est Fanny qui ajoutait avec l'aval de son frère.
C'est ça, ou son frère, ça lui était peut-être un peu égal, mais en tout cas c'était la mère et Fanny qui organisaient ça pour faire publier certaines des œuvres de Fanny. Et c'est comme ça que la reine Victoria a pu dire à Félix qu'elle adorait son morceau Italien, qui avait en fait été composé par Fanny, mais qui était dans le livret de Félix. Voilà. Mais là, Fanny veut publier sous son propre nom. Et son père est décédé quelques années plus tôt. Et la peur qu'elle avait de décevoir son père s'est déplacée à son frère. Fanny, c'était vraiment une femme qui doutait énormément d'elle-même, qui se disait « mais ça intéresse personne de toute façon, mes morceaux », et qui ne voulait pas décevoir sa famille, qui avait peur de décevoir, peur d'amener la honte sur sa famille. Et elle va donc écrire une lettre à son frère pour lui annoncer qu'elle a pris sa décision et qu'elle va publier sous son propre nom. Et elle dit « j'espère ne pas apporter la honte sur ma famille ». Et Félix l'a fait attendre quelques semaines avant de lui répondre et il finit néanmoins par lui répondre. Et dans sa lettre, il lui adressait toutes ses félicitations à sa collègue compositrice et lui dit « J'espère que les foules ne te jetteront jamais du sable dessus, mais seulement des fleurs ». Et avec cela, elle a l'aval de son frère et elle va donc publier sous son propre nom ses premières œuvres. Mais malheureusement, c'est déjà un peu trop tard, puisqu'elle commence en 1846 et en 1847, en mai, elle décède. Et Félix, en hommage à sa sœur, va, après la mort de celle-ci, publier certaines de ses œuvres à elle, sous son nom à elle, pour lui rendre hommage.
«
Traum, le rêve, un lied pour voix et piano de Fanny Mendelssohn, ici proposé dans une version pour chœur et orchestre. Le chœur de chambre figure humaine était dirigé par Denis Rouget.
Voilà, maintenant on est dans la dernière salle de ce cycle de l'année. C'est donc l'automne. Et là, il faut décrire pour nos auditeurs ce qui est en face de nous. Donc on est devant un fond aux couleurs du ciel, donc un ciel bleu avec des nuages, et de ce ciel tombent des lettres. Donc les lettres sont fixées au mur, mais elles donnent l'impression de voler dans le ciel, de tomber du ciel, au final comme des feuilles tombent des arbres en automne. Et toutes ces feuilles sont des extraits de journaux intimes ou de lettres de Fanny ou de ses proches à Fanny. Et nous avons essayé de faire découvrir un petit peu la personnalité de Fanny, ses pensées, ses idées, les réflexions qu'elle se posait, par exemple sur son rôle de femme, et de la laisser parler elle-même, au lieu de nous toujours dire ce que Fanny pensait. Là, c'est vraiment ses mots à elle. Et du coup, c'est une sélection très intéressante de lettres, par exemple à son frère, où vous pouvez en découvrir un petit peu plus sur la relation tout à fait particulière que les deux entretenaient, sur son amour pour son mari également. Des lettres, il y a la fameuse lettre de son père aussi, qui je crois est ici, c'est la fameuse lettre du 16 juillet 1820, où il lui dit, alors qu'elle a 15 ans, que la musique devra pour elle rester seulement un ornement. Et donc, toutes ces lettres, qui sont aussi ici traduites en anglais, donnent un aperçu dans les pensées les plus personnelles de Fanny Hensel.
C'est très très joli comme c'est présenté, et c'est vrai que c'est très riche, on apprend beaucoup de choses à travers la lecture d'une correspondance.
Absolument, les lettres sont le miroir de l'âme, comme on dit. Voilà, donc on a essayé de laisser parler Fanny. Thank you.
Le final Allegretto moderato du trio pour piano, violon et violoncelle en ré mineur de Fanny Mendelssohn par le trio Boulanger.
Et l'exposition sur Fanny se termine par deux dernières pièces. Donc l'une a des déguisements d'époque que nos visiteurs peuvent enfiler. Et il y a une caméra ici. Ils peuvent se faire photographier. Donc c'est une tradition aussi de l'époque des Mendelssohn, des tableaux vivants. Et on a beaucoup de lettres où les Mendelssohn racontent justement avoir fait des tableaux vivants pendant des soirées avec des amis, pour Noël par exemple. En ce moment, je prépare du contenu pour les réseaux sociaux pour Noël, un petit calendrier de l'Avent. Donc si vous voulez nous suivre sur Instagram, n'hésitez pas. Et justement, Fanny raconte à Félix, qui est absent, que la maison était pleine à craquer pour Noël. Il y avait la famille, mais aussi Wilhelm avait invité certains de ses élèves de son atelier de peinture. Et ils ont commencé à faire des tableaux vivants où les hommes se déguisaient en femmes, où ils font une réinterprétation du jugement de Paris qui donne la pomme à une des trois déesses, où c'était des jeunes hommes déguisés en déesse et qui posait ou qui jouait de la musique ou qui dansait. Donc c'était un passe-temps apprécié pendant les soirées de se déguiser, de se mettre en scène, des fois devant un fond comme on l'a ici. Et donc on a essayé de donner l'occasion à nos visiteurs de faire la même chose, de se déguiser et de se faire prendre en photo devant ce fond. Et le fond représente donc une soirée typique au 19e siècle avec des personnes qui font de la musique, qui chantent, un monsieur qui s'ennuie, un qui s'endort, des enfants qui jouent, etc. Et donc la petite photo souvenir est téléchargeable sur notre site internet à la fin.
Excellent.
Et enfin, cette dernière pièce, elle est dédiée au concert du dimanche, donc dont je vous ai beaucoup parlé, qui était une tradition chez les Mendelssohn, que Fanny a repris à son compte après le départ de Félix, qu'elle a tout organisé, comme je l'ai dit, le programme, les musiciens, les répétitions. Et ces concerts du dimanche sont vraiment devenus l'endroit où il fallait être. C'était l'endroit où on retrouvait tous les membres de la société musicale, culturelle, berlinoise. Tout Berlin voulait être invité chez les Mendelssohn pour pouvoir assister à ces concerts. Et dans leur grande maison de Berlin, il y avait une salle qui pouvait accueillir quelques centaines de personnes pour organiser ces concerts. Et donc les gens se pressaient pour pouvoir y être. Et on a réalisé donc ce petit film qui résume l'histoire, le commencement, comment on a créé ces concerts du dimanche, comment Fanny les a développés, qui était invité. Certains des grands noms de la musique sont venus participer ou juste assister au concert. Et on a fait une petite frise avec certains d'entre eux ici. Donc on retrouve Jenny Lind, on retrouve Clara Schumann, Niccolo Paganini, etc. Giacomo Meyerbeer aussi. Et Fanny raconte d'ailleurs dans une lettre que c'est même des princesses royales qui venaient chez les Mendelssohn pour assister à ces concerts, et raconte à sa sœur, imagine-toi, 20 carrosses sont rentrés les uns après les autres chez nous. Voilà, donc c'était quelque chose de très important chez les Mendelssohn, de très important pour nous aussi, puisqu'on continue la tradition. Et donc c'est un joli petit film de quelques minutes qui résume tout ce que je vous ai dit à ce propos. La dernière chose que je peux encore vous dire, c'est qu'en face de Fanny, au second étage, on a une dernière exposition qui est dédiée à Kurt Masur, le chef d'orchestre. Et en fait, c'était important pour nous d'aussi parler de lui, puisque c'est Kurt Masur qui a eu l'idée de créer ce musée. Donc voilà, on est à l'entrée de l'exposition sur Kurt Masur et on est devant un grand portrait de lui. Et en fait, comme je l'ai dit, dans les années 90, la maison n'était plus dans le meilleur état du tout. Et il y avait déjà des voix qui envisageaient de peut-être la faire détruire et remplacer par un hôtel ou que sais-je. Et Kurt Masur, qui était un grand amateur de la musique de Mendelssohn, a dit « c'est pas possible, c'est un lieu tellement important pour l'histoire de la musique allemande et de l'histoire de la musique de Leipzig, il faut protéger cette maison ». Et donc Kurt Masur va fonder la fondation Félix Mendelssohn-Bartholdy, qui, par des concerts à travers le monde entier, va rassembler des fonds pour pouvoir acheter cette maison et la transformer au fil des années en musée. Et donc c'est grâce à Kurt Masur que nous sommes ici, que la maison existe peut-être encore. Et donc bien sûr, on a voulu parler un petit peu de la vie de ce chef d'orchestre qui a dirigé Le Gewandhaus, donc c'est un successeur de Mendelssohn au fond. Il a aussi dirigé à Paris, mais aussi en Israël, mais aussi au Japon et le Philharmonique de New York. Et c'est aussi une figure très importante à Leipzig parce que c'est lui qui a participé activement aux manifestations pacifiques qui ont lieu en octobre 1989 à Leipzig et qui ont mené à la chute du mur de Berlin. Donc voilà, une figure clé pour la ville de Leipzig et pour nous aussi. Sans lui, on ne serait probablement pas là aujourd'hui.
Merci Kurt Masur.
Thank you.
quelques pages du premier concerto pour piano et orchestre de Félix Mendelssohn, ici interprété par Kurt Mazur à la tête de l'orchestre du Festival de Verbier, avec en soliste Yuja Wang. Je remercie ici très chaleureusement Myriam Leduvea qui nous a guidés à travers cette exposition Fanny Mendelssohn proposée dans la Mendelssohn House de Leipzig, l'unique musée consacré au compositeur. Ainsi prend fin cette oreille d'abord. Je remercie également Marie-Claude Cudry qui signe la réalisation de cette proposition Catherine Buser. Demain, nous irons visiter le Gewandhaus de Leipzig. Vous écoutez Espace 2, il est 17h30.
Avec la RTS, célébrons la musique classique. La Schubertiade RTS Espace 2 essaimera ses plus belles notes à Sion les 6 et 7 septembre 2025. Une centaine de concerts et divers registres musicaux pour un public passionné de musique. Vous êtes soliste, membre d'un ensemble instrumental ou d'un chœur et souhaitez participer à l'affiche de cette 22e édition? Les candidatures sont ouvertes dès maintenant et jusqu'au 1er décembre sur le site schubertiade.ch.
Bazar, Sébastien Pache.
Tous les jours de la semaine, on se réunit autour d'une proposition musicale pour vous accompagner jusqu'à 19h30. Manière de dire adieu au jour, adieu à la lumière, Auf Wiedersehen. Cet au revoir-là, on le formule au quotidien, journellement, chacun pour soi, malgré nous, malgré tout. En revanche, il est des petits riens auxquels on ne fait aucun geste, pour lesquels on n'a aucune pensée, qui ne nous tendent pas forcément la main pour qu'on la leur serre, ne serait-ce que parce que ces petits riens ne possèdent pas de tels organes. Ils n'ont pas de main, voire pas d'organes du tout, en fait. Vous me pardonnerez la trivialité de ce propos, mais enfin, l'existence est une chose bien banale en soi, alors c'est en parler que de parler de rien. Songez-vous parfois, chers amis, au contenu de votre taille-crayon que vous versez dans la poubelle. Ces débris de bois, copeaux des projets de notes ou d'écriture, ils vous pincent pas un peu le cœur, dites. Ils peuvent rien dire quant à leur crémation certaine, sauf si vous les balancez en forêt, ils vont certainement finir au four, hein, à moins que vous les mettiez pas à la poubelle en Suisse, mais ça c'est un autre sujet. Ils n'ont pas voix au chapitre. Ils se contentent de vous aider à en écrire, ne fût-ce qu'un énième opus de liste de courses ou d'annotation de factures. Mieux vaut une mauvaise plume qu'une mauvaise mémoire ou une mauvaise encre, peu importe, disait un Napoléon. Et moi je vous dis, mieux vaut une plume tout court, la forme et l'usage que vous désirez. Et question mémoire, rappelons-nous de nous dire bonsoir. Vous pouvez même l'écrire, si ça vous fait plaisir. Louis Lorty au piano dans le premier mouvement de la 20e sonate pour piano de Ludwig von Beethoven, une de ces sonates faciles destinées à des besoins pédagogiques. Et il y a de la famille là autour. Alors d'abord parce que la musique ça se partage, mais ensuite parce que c'est grâce à Caspar, le frère de Ludwig, que ces sonates faciles ont été publiées. En effet, c'est lui qui, 10 ans après la composition de cette 20e sonate, c'est lui qui l'a proposé à un éditeur permettant à la postérité, c'est-à-dire nous autres, d'en profiter. 17h38, vous écoutez Bazar sur RTS Espace 2. Soyez les bienvenus.
Bazar.
Thank you.
Nous avons successivement entendu deux mouvements tirés de la petite suite pour piano, transcrite pour orchestre d'Alexandre Borodine, Nemeyervi à la direction de l'orchestre symphonique de Göteborg. Nous poursuivons avec une autre transcription. Il s'agit d'un lied pour voix et orchestre de Gustav Mahler, tiré de ses Rückkehrlieder. Mitternacht. Alors, puisque le mouvement de la petite suite pour piano qu'on a entendu juste avant était une sérénade, pourquoi pas vous proposer ce Mitternacht qui nous emmène à minuit. Vous voyez un petit peu le cheminement intellectuel qu'il y a là derrière. Ah, c'est de la haute voltige, on va pas s'en cacher. Nous entendons donc une transcription de cette musique, un quatuor à cordes, le quatuor Schumann avec la voix de Felicity Lott.
Thank you.
Tiré des Rückkehrlieder de Gustav Mahler, c'était Mitternacht, transcrit pour une voix, nous entendions celle de Felicity Lott, ainsi qu'un quatuor plus un piano. Christian Favre était derrière le clavier. Qu'est-ce qu'elle nous racontait, cette voix? Mitternacht hab ich gewartet. Ça connaît un certain nombre de personnes. À minuit, je me suis éveillé. Alors, parfois s'éveiller, c'est plus vers 4-5 heures du matin, mais on va faire la moyenne. Et j'ai regardé le ciel. Aucune étoile dans le fourmillement des étoiles ne m'a souri à minuit. C'est ce moment de la nuit où on se réveille et on est totalement démuni parce qu'on aimerait bien pouvoir encore dormir. Et puis le corps nous dit non et l'esprit nous dit oui. À minuit, j'ai tourné mes pensées au-delà de sombres barrières. Aucune pensée de lumière ne m'a apporté de consolation à minuit. À minuit, j'ai écouté les battements de mon cœur. Toutoum, toutoum. Seul un pouls de douleur s'est enflammé. Le pouls avec L et S pour les battements du cœur et pas le pouls qu'on pourrait avoir dans les cheveux. Vous l'avez compris. À minuit, j'ai combattu dans la bataille. Ô humanité de ta souffrance, je n'ai pas pu vaincre avec ma seule force. À minuit, c'est de l'abandon du corps. C'est sous le joug de l'esprit, sous l'empire du non-sommeil. À minuit, j'ai déposé ma force dans tes mains, Seigneur de vie et de mort. Tu montes la garde à minuit. Oui, on se dit que le Très-Haut, finalement, il s'occupera bien de notre état physique et mental dans la journée qui suit, une insomnie. Parce que c'est l'histoire d'une insomnie, finalement, ce Mitternacht, n'est-ce pas? Une forme de caprice nocturne. Thank you. Le dixième des caprices pour violoncelle de Joseph-Marie Clément d'Al-Abaco, interprété par Estelle Reva, violoncelliste suisse qui vient de dédier un disque à cette musique pour violoncelle seule de ce compositeur né à Bruxelles en 1710 et qui a fait carrière en Italie. Nous sommes présentement dans le bazar d'RTS Espace 2. Nous voguons tranquillement vers les 18h. D'ici 5 minutes, nous passerons à notre séquence opéra, passage à l'acte avec la magnifique Alcina de Georg Friedrich Händel. Mais avant cela, dégourdissons-nous un peu l'esprit avec une valse, s'il vous plaît. Ça sera pas du Strauss ce soir, une fois n'est pas coutume, mais presque, de l'Emil Waldteufel, compositeur qui a changé son nom pour germaniser son patronyme. À la base, Émile était un Lévi, mais Waldteufel, le diable de la forêt, ça a son côté un peu piquant, un peu diabolique si on voulait être au premier degré. Et cet Émile Waldteufel, eh bien, qui a fait carrière en France, il nous propose cette valse pour orchestre Espagna, d'après la musique d'Emmanuel Chabrier.